Et nous allons voir que le chemin de la bénédiction n'est pas tout lisse, ni tout droit. Il n'est pas idéal du tout. Abraham n'a pas une vie idéale. Heureusement, d'ailleurs. Mais la vie exemplative d'Abraham nous dit précisément comment Dieu doit traverser toutes les vicissitudes d'une humanité particulière, pour que toutes les familles de la terre soient bénies. Il faut que ça arrive jusqu'aux toutes les familles de la terre. Donc Abraham, vous voyez, c'est déjà un personnage d'une très grande longévité, c'est déjà dit ici, puisqu'il doit atteindre toutes les familles de la terre. Il doit déjà vivre quelques siècles depuis le temps qu'il a été appelé. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on représente avec une grande barbe blanche. Abraham parti, vous voyez, comme je vous disais ce matin, Abraham parti. C'est ce qu'on lui dit, le brave homme. Abraham parti. L'ordre de Dieu parvient à destination. Comme lui avait dit le Seigneur. Et Lot, son neveu, partit avec lui. On avait vu plus haut, Terach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot. Hein, il le prenait. Ici, il part avec. Monsieur Lot, c'est un drôle de personnage. Monsieur Lot, c'est celui qui part avec. C'est celui qui va avec. C'est le suiveur. Celui qui suit. Il y en a toujours, hein, des gens comme ça. Il va avec. Il est plus jeune, il a un neveu. Il va avec son oncle, lui. Hein. Il est parti avec. Abraham partit, comme lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Mais ça, c'est un peu plus fort. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Bon, c'est déjà un vieux monsieur, hein, 75 ans. Abraham prit sa femme, il la prend cette fois-ci. Le terme prendre la femme, prendre femme, est le terme qui dit se marier. Mais il prit sa femme, Sarai, son neveu, là, tiens, il le prend maintenant. Il vient avec et puis il le prend. Alors des gens disent, mais ouf, il dit deux fois la même chose, donc il y a quelque chose qui vient d'une autre source. Voir, hein, voir. Prit sa femme, Sarai, son neveu, Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils étaient devenus riches, là. Il y avait des richesses et il y avait aussi un personnel. Donc c'était l'étape depuis Ur en Chaldée jusqu'à le pays qu'il devait montrer. Tiens, pourtant, on nous a dit tout à l'heure en haut qu'il les fit sortir d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Il me semble qu'on avait déjà donné la direction. Mais ça, c'est pour le lecteur. Hein? Abraham ne le sait pas. Le lecteur sait. Il peut être tranquille. On va quelque part. Mais Abraham ne sait pas. Et quand nous sommes appelés, nous ne le savons pas non plus. Et on nous dit des choses, on nous cache des choses, il y a des choses qu'on dit au lecteur, il y a des choses qu'on dit à Abraham. C'est pas toujours clair. Mais enfin, c'est logique. Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'il avait amassé, le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan. Non, on le sait, vous voyez, on plonge déjà jusque-là. Et ils y arrivaient. Non, on le sait, puisqu'ils sont arrivés. Donc on redescend depuis le nord de la Syrie, là, et on redescend à travers la plaine de Syrie, la Béka, sans doute, et puis alors la plaine d'Israël. On descend au pays de Canaan. C'est là. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem. Comment est-ce qu'on sait? Au lieu saint de Sichem, aux chaînes de Morée. Vous voyez, c'est comme si on savait tout. On va apprendre plus tard ce que c'est Sichem et ce que c'est Morée. Mais comme il écrit pour des gens qui connaissent déjà les lieux, autant qu'ils le disent. Ça, c'est de nouveau pour le lecteur. Abraham traversa le pays comme lorsqu'on prend possession d'un terrain, ben on doit le traverser. Tant que vous n'avez pas traversé le pays, vous ne pouvez pas le prendre. Si vous allez visiter un appartement, il faut le traverser toutes les chambres, sinon vous n'avez pas pris possession de votre appartement. Même chose pour un champ. Donc il traverse le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, le pays que je te montrerai, donc hein, Sichem. On apprendra petit à petit ce que c'est. Le chêne de Morée, quand on voit chêne ou térébinthe, on sait que c'est un endroit sacré. Donc un endroit où la présence de Dieu est marquée. Morée veut dire l'enseignant, ou chêne de l'enseignant. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc c'est pas un pays vide, hein. C'est un pays habité. Il y a des Cananéens qui habitent là. Donc il faut compter avec. Et en même temps, on vous dit, ben voilà un nomade qui traverse le pays, c'est sa fonction à lui d'être nomade, et il rencontre des gens qui sont sur place. Le Seigneur se fit voir à Abraham. Et dit, c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Le pays que je te ferai voir, il avait dit, hein. Tiens parole, fais voir, mais ne donne pas. Nous passons maintenant au thème de la promesse. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Une promesse, c'est une parole de confiance. Je dis que je donnerai, je dis maintenant que je donnerai plus tard. Quand plus tard? Plus tard. Je dis que je donnerai. Je ne donne pas, pas encore. Je te promets, si. Ici, il n'y a pas de si, hein, vous remarquerez. Je te promets un vélo, si. Non. Je donnerai. Sans condition. Mais pas à toi, à ta postérité. Oui, mais Sarai est stérile. D'accord, on sait qu'il y a un empêchement, tout à fait directement. C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Donc il lui a fait voir, il lui a fait traverser, et maintenant il va le donner, non pas à lui, mais à sa postérité. Donc il y a toute une distance entre la promesse, la parole d'aujourd'hui, et le don qui viendra. Il faut faire confiance. Généralement, quand nous avons un désir en nous, ici vous avez, vous rendez bien compte, deux désirs fondamentaux qui sont présents dans le texte. Un désir d'avoir une terre, une possession, un endroit où on puisse mettre son nom. Cette terre appartient à monsieur un tel, un nom, un espace. On veut mettre son nom sur l'espace et on veut mettre son nom aussi sur le temps. La postérité, c'est celui qui viendra après moi et qui portera mon nom. C'est l'homme qui, connaissant sa limite, veut excéder sa limite, aller au-delà, tout en sachant qu'elle est là. Mettre un nom sur une terre, et la terre pourra être léguée précisément à la postérité, et donc avoir une postérité. Deux problèmes tout à fait fondamentaux. Un nomade, un travailleur étranger, un immigrant, qui se trouve ici, sans postérité, et qui ont besoin de travail, pour avoir un endroit, éventuellement un appartement, et pour pouvoir avoir de l'argent pour se marier, éventuellement avoir une postérité. Sans domicile fixe, Abraham. Et donc il y a deux problèmes fondamentaux, deux désirs fondamentaux. Quand on dit désir, on dit toujours présence de Dieu, au plus profond de notre être. Et tout désir est de soi infini, indéfini, dirions-nous, dans ce monde. Mais enfin, il n'a pas de limite. Le désir est précisément cette présence de l'illimité, de Dieu, dans un limité. Et il faut le reconnaître comme tel. Mais nous disons « mon désir » ou « je désire ». Mais qu'est-ce qui désire en moi? Quel est cet infini de mon désir? C'est la question qu'il faut poser. Donc deux désirs fondamentaux, et des désirs fondamentaux, c'est donc procréer, c'est-à-dire marquer son nom dans le temps, et avoir une terre, marquer son nom dans l'espace. Et nous avons tous ces deux désirs en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce désir? Ou ces désirs? Ou bien on les reconnaît comme venant de Dieu, leur caractère infini évoque déjà cette présence de Dieu, ou bien on en fait son propre désir, et on met la main dessus. Je désire cela. Et donc, je désire, je vais assouvir ma faim, ma soif, mon besoin. Je prends. Ou bien je reçois. La main peut servir des deux côtés. Ou bien pour prendre, mettre la main dessus, ou bien pour recevoir. Et donc laisser passer. Or justement, ceci nous permet de mesurer notre désir. J'ai un problème et je veux le résoudre. C'est pas mauvais en soi. Mais est-ce que je le laisse résoudre par la présence de Dieu en moi et en l'autre éventuellement? Il y a des tas de questions qui se posent à partir de cela. Et pour résoudre le problème, il y a tout un itinéraire à fournir. Il ne faut pas rester statiquement accroché à mes propres désirs ou à la manière dont je vois qu'ils pourraient se réaliser, mais peut-être écouter la manière dont peut-être les autres me disent qu'ils pourraient se réaliser. À ta postérité, je donnerai ce pays. Ce n'est pas nécessairement toi qui vas résoudre ton problème. C'est peut-être ta postérité. Et vous voyez, ça permet de lâcher beaucoup de choses. Parce qu'il a dû, il a dû lâcher la maison de son père et sa parenté, mais il doit aussi lâcher son propre avenir. Il n'a pas de postérité. Et vous voyez, ce problème nous intéresse dès le départ, il intéresse Abraham et il intéresse le lecteur. Quelle est ma postérité? Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Il marque son territoire. Il ne le marque pas de son propre nom. Il n'écrit pas son nom sur une pierre pour dire « Ici est passé Abraham ». Non, il dit « Ici Dieu est passé ».« Ici Dieu a rencontré Abraham ». Donc c'est un lieu de rencontre. Un lieu où je perçois que la promesse est plus grande que moi, que je n'ai pas à mettre la main dessus, que je n'ai pas moi-même de territoire sur lequel je puisse mettre la main. Il passa de là dans la montagne, à l'orient de Bethel, hein, tous les mots qui viennent ici, Sichem, chaîne de Morée, Bethel qui veut dire maison de Dieu, on va découvrir plus tard, dans les textes, ce que ces noms signifient. Pour le moment, ce sont encore des noms, maison de Dieu. Et il dressa sa tente, ayant Bethel à l'ouest, et Aï, Aï signifie la ruine, Aï, on va en reparler avec Jéricho, à l'époque de Josué. Donc il avait à l'orient de Bethel, il dressa sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Aï à l'est. Il est là, au milieu de l'est et de l'ouest. Donc il est au centre. Là où nous sommes, c'est toujours à centre. Hein. Là, ah tiens encore, où ça là? Ah, là. Il passa de là, dans la montagne, et là, la montagne de Juda, il bâtit un autel au Seigneur, Et il invoqua son nom. Invoquer le nom de Dieu, c'est entrer dans cette parole de Dieu. Puis de campement en campement, Abraham alla au Négev. Et on le retrouve tout à fait au sud. Il a tout traversé. Et il a jalonné le pays d'autel au Seigneur. Il a dit, le Seigneur passe par là. Le Seigneur me rencontre. Il y a tout un programme d'existence là. Un quitter pour un aller vers, et celui suivant la voie duquel on chemine, avec une responsabilité universelle, c'est Dieu lui-même. Voilà donc la première présentation qu'on nous fait d'Abraham. Une mission, une vocation, comme on dit, et une présence. Deux réalités que l'on va traiter dans la suite du texte. La première étant le pays. Qu'est-ce que la terre devient? Qu'est-ce que c'est que la terre? Toute une réflexion sur la terre, l'appartement, la maison, hein, l'endroit où nous vivons. Qu'est-ce que c'est qu'un endroit où nous vivons? Ça signifie. On va réfléchir un peu là-dessus. Et puis la postérité. Et on a toujours à l'horizon, hein, Sarah était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais nous sommes curieux d'avoir la réponse à ce Sarah était stérile. Comment on va faire? Il ne va pas commencer par nous donner une réponse. Hein. Il va nous faire languir. Il va d'abord nous parler de la terre. Bon, ça nous intéresse moins. Mais non, c'est important. Il y a terre et terre. On l'a vu avec Babel, on est réparti partout sur la terre. Il y eut une famine dans le pays. Bien. Pourtant, Dieu avait donné à manger, il avait même fait le menu. Et puis, il l'a fait un peu plus important, le menu, en donnant de la viande en plus, hein, depuis Noé. Il y a une famine. Ça part mal quand même, hein. Une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte. Ah, voilà, ça lui donne quand même l'occasion de faire un voyage. Il y a la famine, on paraît. Il descendit dans l'Égypte pour y séjourner. Alors, on ne dit pas combien de temps, mais il veut se protéger de la famine, donc il a besoin de manger, le gars. Car la famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'il fut prêt d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarah, vois-tu, je sais que tu es une femme de belle apparence, je sais que tu es belle. On dirait qu'il fait la découverte. Et c'est la première fois que Abraham parle à sa femme, dans le livre en tout cas. Jusqu'ici, on n'a pas encore dit qu'il parlait. Donc c'est le premier discours entre mari et femme qui est signalé dans le livre. Bien sûr que le livre ne signale pas tout, je sais bien. Mais pourquoi on raconte comme ça? Pourquoi est-ce ici le premier dialogue? Vois-tu? Je sais que tu es belle. Et il lui dit ça juste avant de descendre en Égypte. En Égypte, on va voir des gens qui sont considérés comme des rames. Des Ramites, des successeurs de Ram, celui qui s'était moqué de son père. Hein. Mais ce sont des Africains, ce sont des Noirs. Je sais que tu es une femme belle. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront en vie. Donc c'est une question de vie ou de mort. Pour moi, évidemment. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. Tu curieux, hein, ce marchand-là. On dirait que la femme n'a pas beaucoup d'importance. Surtout, ce qui est important, c'est que Abraham reste en vie. Effectivement, c'est important, sinon on ne saura pas comment il a une postérité. Hein. On voit bien, hein, pour les ressorts du récit. Mais enfin, c'est quand même drôle de manière. Hein. Drôle de manière de parler de la femme. Mais ça nous choque, heureusement. C'est scandaleux, hein. C'est de fait un texte scandaleux. Et il est même si scandaleux qu'il va être repris 3 fois. Donc c'est qu'il a quand même une certaine importance. Mais beaucoup de commentateurs se sont quand même cassés les dents sur ce texte. On a écrit beaucoup. Est-ce qu'on a fait la vérité? Je ne sais pas, c'est à nous à la faire dans notre vie. Dis, je te prie, tiens, il est quand même insistant, que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi, et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. Pour toi ou pour moi, qu'on me laisse en vie par égard pour moi. C'est quand même un peu la femme objet, hein? Vous ne voyez pas?
Non.
Ah. Un objet de marchandage, quand même. Hein. Un peu. De fait, quand Abraham arrive en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Ils savent aussi ce qui est beau en Égypte, qui était d'ailleurs reconnu comme tel. Les vœux officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon. Oui, on vient tout de suite la trouver. Oui. Et la femme fut emmenée au palais du Pharaon. De Pharaon. C'est pour le roi, pour le harem du roi. Celui-ci traita bien Abraham à cause d'elle. Ça arrive quand même comme il avait pensé. Il eut du petit et du gros bétail, des ânes, des esclaves, des servantes, des ânes et des chameaux. Curieux, hein, ces esclaves et ces servantes qui sont mises au milieu du cheptel. C'est étrange quand même, non? Enfin, nous, on ne paraît pas comme ça, en tout cas.
C'est le prix de la femme d'Abraham.
Ah oui, bien sûr. Les chameaux, bah oui, tout ça. Tout ça, ça coûte cher. Une femme, ça coûte cher. Surtout une belle femme. Mais le Seigneur frappa Pharaon de grandes plaies. Tiens, on trouve déjà les plaies d'Égypte ici. C'est amusant, hein? Ça, c'est un thème que vous allez voir, un thème récurrent, la plaie. Qu'est-ce que c'est qu'une plaie? Que Dieu envoie, bien. Nous parlerions, nous, de justice immanente. Eux, ils parlent de plaie que Dieu envoie. Une fois que tu introduis quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans ta famille ou dans ta vie, fais attention. Tu vas en attraper sur les doigts. Mais le Seigneur frappa Pharaon de grandes plaies et aussi sa maison à propos de Sarai, la femme d'Abraham.
Elle devient malédiction.
Tout à fait. Pharaon appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait. Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi tu dis elle est ma sœur? En sorte que je l'ai prise pour femme. Comment est-ce qu'il a su tout ça?
Mais la femme est bavarde.
Ah, voyez tout ce qu'on met en dehors du texte. Hein? Pourquoi tu dis elle est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour femme? Maintenant, quand on dit le maintenant, là, c'est la conclusion, voilà ta femme. Prends-la et va-t'en, et pars. Prends-la. Maintenant, c'est un ordre du Pharaon, ce n'est plus l'ordre de Dieu. Le premier part au début du chapitre, c'est l'ordre de Dieu. Ici, ça vient du Pharaon. Prends-la et pars. Prends-la, aux femmes. Prends-la et pars. Pharaon le confia à des hommes qui le reconduisirent à la frontière, ne veut plus avoir d'affaires avec lui. Lui, sa femme, et tout ce qu'il possédait. Curieux, hein, ce premier mariage avec l'Égypte. Une première union avec l'Égypte, là, qui se ça se dessine là derrière. Je l'ai prise pour femme, l'Égyptienne. À la fin du livre, on verra Joseph en Égypte. Puis au début du livre de l'Exode, on verra les Israélites en Égypte. L'Égypte qui est à la fois le pays ennemi, le pays de l'esclavage et le pays qui sauve. Hein, parce que Moïse sera aussi sauvé par la fille du Pharaon, hein, par une bonne égyptienne.
Non. Mais la sœur doit expliquer pourquoi c'est celui qui commet la faute qui n'est pas puni.
Pourquoi posons-nous cette question-là? Parce que nous avons des idées de derrière la tête. Pourquoi faut-il être puni parce qu'on commet la faute? Est-ce une faute? Toutes sortes de questions que, évidemment, les commentateurs juifs d'abord et puis chrétiens, etc., ont essayé de se poser. Ils ont dit, là, il y a quelque chose dont on ne voit pas très clair, qu'est-ce que ça signifie? Alors, vous avez toutes sortes de descriptions psychanalytiques qui disent que, évidemment, Abraham a commis un inceste en parole. Au chapitre 20e, on va reprendre le texte, il y aura des variantes qui vont nous dire que Sarai était une fille adoptive du père d'Abraham. Et donc on va diminuer quelque peu la responsabilité d'Abraham. Elle est manisseur, une fille adoptive. Alors, comprenez bien que les archéologues se sont donnés à cœur joie d'aller voir quelles étaient les institutions possibles. Et ils ont trouvé, figurez-vous, parce que quand on cherche, on parvient toujours à trouver quelque chose. Hein? Notamment Anouzi, une des villes justement de la Mésopotamie, qu'il existe une institution qui s'appelle la femme-sœur. On peut prendre une femme et on peut lui donner le titre de sœur, qui est une protection, un privilège particulier, qui donne des droits et des devoirs particuliers. Mais c'est une institution qui existe. Et certains ont dit, mais voyez, nous sommes juste devant un cas pareil. En Égypte aussi, on parle de épouse-sœur, sœur-épouse. Donc c'est pas tout à fait inouï.
C'est bon pour les religieuses.
Peut-être. Mais il y a quelque chose de plus profond là-dedans. C'est ce qui se joue dans le texte. Dis, je te prie que tu aies ma sœur. Donc, qu'est-ce qu'il demande à sa femme? Quoi qu'il en soit maintenant de ses institutions, c'est possible, après tout. Mais ceci est pour répondre en partie à la question de Michel. Est-ce que c'est vraiment regardé comme une faute? C'est une tromperie, ça certainement. Mais nous verrons qu'il y en aura encore d'autres. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. C'est une tromperie. Mais cette tromperie a un but qui peut être louable, c'est sauver sa peau. Mais il demande à sa femme, on peut le prendre comme on veut, ou bien d'être son otage, ou bien de faire vraiment le sacrifice d'elle-même.
Un peu comme Esther.
Un peu, oui. Un peu, tout à fait. Il lui demande de sacrifier au fond ça, jusqu'à un certain point, sa personnalité. Mais elle est stérile, hein? N'oubliez pas. Elle est stérile.
Il n'y a pas de danger.
Mais voyez, c'est un texte qui pose des tas de questions. Et il faut le laisser poser les questions. Il ne faut pas les résoudre, surtout. Il faut laisser poser les questions. Famine. Donc, il vient en Égypte pour sauver sa peau, sa vie. Il dit à sa femme Sarai, il dit à sa femme Sarai, vois-tu, je sais que tu es belle. Oui. Je réfléchis sur le texte.
Tu as donné un bon élément de réponse. Alors ça, c'est intéressant. Donc sa femme, il se dépoue, ça c'est bien. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi, ou alors est-ce qu'il y a tout un temps sans civilisation. Pourquoi est-ce que celui qui n'est pas dans le réponse-là. Pourquoi est-ce que lui, il a, on lui compte comme un malheur. Pourquoi est-ce qu'un malheur est entraîné pour lui? Alors qu'il n'en est pas responsable. Ça, c'est la question.
Voilà le problème.
Est-ce qu'il y a tout un plan qui n'a pas de signification? Est-ce qu'on le voit la signification autour d'Abraham et de tout ça? Et alors le reste qui est autour, ça a une signification.
Le problème du mal objectif.
Oui. Nous ne savons pas. Pourquoi faut-il savoir? C'est pas dit. Nous restons avec des questions, hein? Et nous voudrions bien les résoudre, oui?
Il me semble que c'est l'expérience que des situations anormales eh bien, produisent parfois des effets qui sont désastreux.
Oui.
Et c'est pas nécessairement, ne retombe pas nécessairement sur les responsables de la situation non idéale.
Parce que nous avons derrière la tête, c'est ce que je voulais finalement dire à Michel, nous avons derrière la tête que c'est celui qui a fauté qui doit être puni. Nous sommes dans un monde de gendarmes voleurs. Il n'y a pas de punition. Il y a le fait que, comme vient de le dire Hubert, tu introduis un ver dans le ver va manger le fruit. Mais le fruit, le fruit, ça peut être l'autre. C'est-à-dire que dès que tu agis, ça a de la répercussion sur les gens et tu ne sais pas jusqu'où. Mais il ne faut pas nécessairement croire que tu vas être puni pour cela. Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a une sorte de justice immanente, oui.
Il faut tout de même encore ajouter que Dieu se fait solidaire des conséquences négatives
toujours.
À tel point que la Bible le met à son compte.
Toujours. Toujours. Sinon, ça viendrait d'ailleurs. Et si le mal vient d'ailleurs, si le mal ne dépend pas de Dieu, alors ça, c'est grave. Là, nous sommes dans un monde manichéen. Il y a deux dieux. Ou bien ça dépend tout de lui, et donc, tout ce qui se passe, ben, il en est d'une manière ou d'une autre responsable.
Mais le Pharaon a quand même été un robot de ne pas...
Ah, il est d'une générosité admirable.
Il aurait pu quand même intervenir, parce que le pharaon, c'est quand même
oui.
Quelqu'un.
Et il ne lui reprend pas tout ce qu'il lui a donné. Il devrait, hein. Il devrait se venger, il ne se venge pas. Ah. Et voyez, c'est plein de questions qui se posent de plein. Il ne faut pas les résoudre, surtout pas les résoudre. Il faut regarder comment ça se passe, oui.
Pourquoi on se base sur un plan moral?
Quoi?
Pourquoi on se base sur un plan moral?
Ben voilà, c'est bien ça le problème. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on se base sur un plan moral? Oui?
Ou bien, dis que tu es ma sœur.
Je te prie.
Ça, en plus.
En plus.
Mais ça peut vouloir dire, dis que quelque chose... nous unit quand on est frère et sœur, on est du même père, de la même mère, enfin on a la même origine.
Oui.
Est-ce que ça ne veut pas vouloir dire reconnaître que nous avons la même origine comme homme ou femme, sauf à la fois et l'homme et la femme, parce qu'au bout du compte, ils sont sauvés tous les deux.
Ils sont solidaires. Sont solidaires, parce qu'ils sont aux mêmes origines, ils sont solidaires. Donc il lui demande quelque chose d'important, que Dieu va lui demander après à propos de son fils. C'est vrai, c'est au nom de cette solidarité profonde qu'il demande. Quelle est la plus grande solidarité? Homme-femme, frère-sœur. Elles sont tous les deux existantes, ce sont deux solidarités. Est-ce qu'il faut? Mais il faut essayer de voir quelles sont les institutions de l'époque, oui.
Vous avez parlé de quoi, la justice immanente, est-ce que vous pouvez vous rappeler qu'est-ce que c'est pour
vous? Justice immanente, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois que vous introduisez un mal, enfin, est-ce qu'il faut parler sur le plan moral? Vous introduisez un mal, il ne faut pas vous étonner des conséquences. Les conséquences vont travailler indépendamment de vous. Mais
crachant l'air, ça retombe sur le nez.
Chez quelqu'un d'autre?
Non.
Pas nécessairement. Le mal ne va pas nécessairement retomber sur vous. Il va passer ailleurs. L'immanente, c'est justement, justement, souvent, la justice immanente, c'est que ça retombe sur vous. Vous avez l'histoire avec, comment il s'appelle là, Paul. Paul qui arrive à Malte, il est sauvé de son naufrage, et les gens de Malte, en voyant qu'il y a une vipère qui est en train de le piquer, ils disent, mais attention, c'est, il a sans doute commis un crime, il a été sauvé de naufrage, mais il va être piqué, il va mourir. Ce qui n'arrive pas. C'est ça, la justice immanente, c'est le mal que vous avez fait finit par vous retomber dessus. Il finit par avoir de mauvaises conséquences pour vous et éventuellement pour d'autres.
Il n'y a personne qui la rende, cette justice. C'est le fait lui-même qui.
Oui. Oui, oui.
Finit par,
ah, mais tout ça, on le met sur le compte de Dieu dans la Bible. Et c'est normal, parce que ce que nous appelons justice immanente n'est pas en dehors du regard de Dieu. Et donc la Bible. Hein, lui souscrit tout ça. Toutes les actions, bonnes ou mauvaises, sont toujours créditées à Dieu, toujours.
Le regard de Dieu et la puissance de Dieu.
Oui, les deux. Les deux. Il doit les voir et il doit s'en tirer avec. Il doit se débrouiller avec ce qu'on lui donne. Alors, comment il se débrouille? En regardant comment les choses se passent. C'est l'homme qui donne à Dieu la possibilité d'agir. C'est toujours à travers l'homme que Dieu agit. Ou à travers, comme avec Abraham, le dialogue profond, hein, de personne à personne. Il n'agit pas extérieurement, Dieu, il agit intérieurement. Oui?
Ici, pourquoi est-ce que moi je vois qu'il au départ, Dieu lui parle, pas. Donc Abraham a confiance en Dieu.
Oui.
Ici, il n'a plus confiance en Dieu, puisqu'il a peur.
Ah, est-ce que nous avons toujours confiance en Dieu? Est-ce que nous sommes logiques?
Oui.
Justement, Abraham est un homme qui croit et qui ne croit pas, comme nous. Et ce que le texte veut tout le temps nous dire, c'est qu'il n'est pas exemplaire. Il croit et il ne croit plus. Mais nous pensons, parce qu'on dit Abraham crut et cela lui fut compté comme justice, ça va venir après, nous croyons qu'il est tout le temps croyant. Il a comme nous des éclipses dans sa foi. Heureusement. La tradition juive n'en fait pas un saint. Hein. Abraham est un type qui essaie de s'en tirer. Lui-même, vous allez voir, juste après, ça va continuer. Il essaie de s'en tirer sans Dieu. Et c'est quand ça ne marche pas qu'il revient vers Dieu. Nous faisons comme ça. Non. Enfin, je ne sais pas vous, mais...
Cette situation, c'est la fidélité de Dieu qui est affirmée.
Oui, la fidélité de Dieu.
Ça, c'est affirmé.
Mais comment voulez-vous qu'il fasse Dieu? Il doit faire avec ce qu'on lui donne, quoi.
Mais il est quand même immoral.
Et alors Dieu doit quand même traverser l'immoral, non? Alors il n'est pas Dieu.
Il envoie des mots au pharaon.
Mais il y a quelque chose qui n'est pas juste.
Mais c'était pas un mal, elle était appétissante, la fille.
Elle était belle. Mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça a été oublié entre temps.
Elle n'avait pas besoin de préservatif.
Non, mais pourquoi voulons-nous que le mal, nous n'en sommes pas tout à fait maîtres? Il y a des choses qui se passent, il y a des tromperies qui se passent. Et ici, il se rend compte, ben, si c'est la femme de. Il a d'ailleurs une conscience très profonde, hein, ce pharaon, il pourrait au fond tuer Abraham et garder la femme, hein, il pourrait, mais il ne le fait pas. Donc il montre quand même la générosité du pharaon aussi. Donc, il n'y a pas que du mauvais dans tout ça. Il perd quelques-unes de ses richesses, le pharaon meurt, enfin il en a tellement. Et vous verrez que ce sera la même chose après. Il y a toujours des petits clins d'yeux vers la suite. Hein. Quand les Israélites s'en vont d'Égypte, qu'est-ce qu'ils emportent avec eux? La richesse des Égyptiens.
Hein. Les bijoux.
Les anneaux, les bijoux, etc.
Mais il fallait pouvoir faire un veau d'or aussi.
Ben, bien sûr, il fallait faire un veau d'or. Et oui, cette histoire tout à fait immorale ou amorale, comme vous voulez, il faut la prendre telle qu'elle est. Il faut dire, mais c'est comme ça que les gens réagissent. Ils font des affaires, ils essayent de sauver leur peau. Il se passe des choses dont ils ne sont pas toujours responsables. Et ici, heureusement, les choses s'arrangent. Ça va bien. Et on conduit Abraham et sa femme à la frontière à Croix, fils. Hein? On ne sait jamais. Elle est trop belle. Hein? Elle est trop belle. Mais voyez, laissons tomber tout cet extérieur et demandons-nous quelle confiance terrible il y a entre cet homme et cette femme. Bien sûr qu'il y a un stratagème, plus ou moins intéressé. En fait, il s'agit de vie et de mort. Nous regardons les choses autrement. Il s'agit de l'honneur de la femme. Elle est quand même la femme d'Abraham, il ne va pas en faire une prostituée. Mais à travers ça, Dieu va trouver un chemin. C'est ça que finalement, il veut nous dire. Il y a quand même une union profonde entre cet homme et cette femme. Dis que tu es ma sœur. Par grâce de toi, pour moi. Pour qu'on ne me tue pas, par grâce de toi. Ils ont besoin d'être l'un et l'autre hein, pour avoir des enfants. Hein.
Et aussi,
oui.
Oui. La pédagogie divine aussi, c'est un peuple enfant, donc il arrive aussi que nous autres prêtres, par exemple, on voit des gens âgés qui jugent leur jeunesse avec la conscience qu'ils ont aujourd'hui,
oui.
La conscience affinée qu'ils ont maintenant. Mais il y a un décalage. Ils n'ont pas à se juger jeunes avec la conscience qu'ils ont aujourd'hui.
Oui, mais on le fera toujours, ça. Parce qu'on porte son passé.
Ceux qui t'ont mis le couteau sur la gorge, dans 30 ans, ils se jugeront. Hein.
Tu causes bien.
Voyez, il faut garder le texte, moi je crois, pour ce qu'il est. C'est-à-dire, comme un texte qui pose un certain nombre de questions et d'énigmes. Et qui nous dit, tiens, mais quelles sont nos relations? Quelle est la profondeur de nos relations? Qu'est-ce que c'est qu'être sœur? À quel prix? Qu'est-ce que c'est qu'être femme? Où mène la relation? Jusqu'où? N'importe quoi? C'est pas n'importe quoi ici. Pour sauver son mari. Évidemment, dans des situations et des institutions qui ne sont plus les nôtres. Et nous ne pouvons pas les juger. Ce qui est important, c'est pas tellement de voir quelles sont les institutions qui existaient à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi le texte est raconté comme cela.
Mais il y a un jugement de l'institution, puisque Pharaon reconnaît qu'il y a une faute objective, en tout cas.
Il y a une faute objective, en tout cas, dans le fait que c'était sa femme. On a dit, c'est pas sa femme, c'est sa sœur, c'est ça. Là, il y a une tromperie. Et il y en aura. Par derrière. Donc voilà un texte difficile, sans nul doute.
Il n'a pas été bénédiction, là. Hein?
Pardon?
Il n'a pas été bénédiction, là, ça commence mal.
Mais justement, il y a une malédiction qui est en route quelque part, comme dans notre vie. Il y a des choses qui sont des malédictions, c'est-à-dire nous introduisons du mal à certains moments. Des tromperies, des choses qui ne sont pas vraies. Et Dieu doit traverser tout ça. Ah, c'est le problème de l'auteur. Qu'est-ce que Dieu fait avec tout ça?
C'est vrai qu'on pourrait se demander, là, avec un plaisir, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, quoi, hein? Surtout devant un
chien. Impossible à dire. C'est impossible à dire. Hein? Beaucoup parlent maintenant de la légende d'Abraham. Quand on dit légende, ce n'est pas... Nous pensons fable ou faribole. Non, légende, au sens premier, c'est ce qu'il faut lire. Legendum, hein, c'est quoi de ce legendum? Donc une légende, c'est une lecture que l'on fait des événements, mais à partir d'un exemple d'Égypte, Abraham, avec sa femme, tout ce qu'il possédait, il possède encore un peu plus depuis le cadeau de Pharaon, hein, et Lot avec lui, de nouveau Lot avec. C'est curieux, hein? Remonta au Negev. Ah tiens, on fait le chemin en sens inverse. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Argent et or, or et argent. Ça flaire l'idole, ça. Hein? Ses campements le conduisirent du Negev jusqu'à Bethel. Tiens, vous voyez, exactement le chemin en sens inverse. Jusqu'à Bethel, à l'endroit où sa tente s'était dressée d'abord, entre Bethel et Haï, à l'endroit de l'autel qu'il avait érigé précédemment, et là, Abraham invoqua le nom du Seigneur.
Il remercie de s'en être tiré.
Peut-être bien, je te donne entre les lignes. Il invoque le nom du Seigneur. Vous voyez, à travers tout cela, ce qui est dit, c'est qu'il y a un lien personnel entre le Seigneur et Abraham. Ça, c'est important, en tout cas. Lot, qui accompagnait Abraham, qui était avec, hein, avait également du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes, il faut bien dans les mains, hein, quand on est nomade. Le pays ne suffisait pas à leur installation commune, mais il y en avait trop. Voilà comment on explique les choses. Il y avait trop de troupeaux, trop de tout ça, et c'est vrai que dans les déserts, par là, pas tellement manger. Hein. Ils avaient trop de biens pour pouvoir habiter ensemble.
On ne parle pas encore de la femme de Lot jusqu'ici.
Non, ça va venir après ça. Il faut quand même la laisser vivre ce qu'il veut. Il y eut une dispute. Ah tiens, ah, ça commence. Une dispute entre les pâtres des troupeaux d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot. Ils se bagarrent comme le font toutes les tribus. Lorsqu'il y a de la nourriture ou de l'eau, quelque part, il faut se la disputer. Une petite explication. Les Cananéens et les Périssites habitaient alors le pays. Bon, on vous dit toujours, il y avait d'autres personnes dans le pays, donc vous ne pouvez pas tout prendre. Aussi, Abraham dit à Lot,